Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Hola a todos y toda la afición de la Fórmula 1, bienvenido en el warm-up del Gran Premio de España. Et non, c'est pas Nico, mais de nouveau Louis Gerbier. Nico a entamé une grève de la faim pour demander que Franco Colapinto puisse commencer tous les Grands Prix en pole position. Il va sûrement parvenir. Donc adieu mon Nico, non, on le retrouvera lundi évidemment. Mais on a toujours une équipe de folie les amis, puisqu'on a le seul ingénieur du paddock RMC qui a été champion olympique de VTT, Julien Absalon.
Et oui.
Salut Julien, on a dû te la faire pas mal de fois.
Ouais, moi ça va très bien.
Et puis on a un nouvel ingénieur qui rejoint le paddock, c'est sa deuxième aujourd'hui, Tristan Van de Driche. Je l'ai bien dit Tristan ?
Non, mais c'est pas grave.
Ah, punaise, pourtant ça fait une heure que je la bosse. Ça va Tristan ?
Hola, c'est le seul mot espagnol que je connais, j'ai fait LV2 allemand. Désolé, ça n'ira pas plus loin.
Donc toi, t'es fan de Ferrari et Charles Leclerc, ce qui fait de toi quelqu'un de bien, d'office. Sois le bienvenu en tout cas, mon gars. On va parler Formule 1 pendant 40 minutes avec toi et avec Julien. Et c'est tout de suite que je vous donne le sommaire, puisqu'évidemment, on va parler des spécificités du circuit et de son historique. Ça sera pour notre ami Julien. Ensuite, on abordera la nouveauté de l'année avec Tristan, ces fameux ailerons qui vont peut-être relancer la saison. La folle rumeur Horner chez Ferrari, c'est nos amis de Bild en Allemagne qui nous disent que apparemment on serait allé voir du côté de Christian Horner pour peut-être remplacer potentiellement Fred Vasseur. On entrera dans le dur ensuite en se demandant si c'est le comeback de Lando après son week-end hyper solide à Monaco. Et puis après 3 victoires lors des 3 derniers Grands Prix d'Espagne, Verstappen fera-t-il le 4 à la suite ?
Ah oui.
En tout cas, ensuite, on finira évidemment avec le point habituel sur les Français, parce qu'on va se pencher sur l'interview, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Flavio Briatore dans Le Monde, qui voit Pierre Gasly rien de moins que champion du monde un jour. Donc moi, j'ai envie qu'on revienne là-dessus. Et puis évidemment, on ne peut pas terminer un warm-up sans vos pronos, messieurs. Voilà, le tour de chauffe du warm-up du Grand Prix d'Espagne est terminé. Les gommes sont à température. Éteignez les feux, c'est parti. Alors les amis, on va sur une piste qu'on connaît bien puisque ça a lieu tous les ans depuis 91. On rappelle que le circuit de Barcelone-Catalogne ou Barcelona-Catalunya, parce que vous avez vu que je suis un peu bilingue, est un circuit qui avait été construit à l'époque à l'occasion des Jeux Olympiques de Barcelone. 4,6 km, 14 virages et un Grand Prix de 66 tours. La petite question piège du début de paddock, qui a le record de tours en course ?
Oula, record.
Ça a changé du coup. Donc c'est Norris ?
Non, à Barcelone. Verstappen.
Ouais, j'aurais dit Verstappen en même temps. Ouais,
une 16.3.
On a eu les monoplaces les plus rapides dernièrement, et donc forcément.
Exactement. Le plus grand nombre de victoires, c'est Michael Schumacher, avec 6 victoires, égalité avec un certain Lewis Hamilton, qui en a gagné 6 également entre 2014 et 2021, et le plus grand nombre de pôles, une nouvelle fois, l'Allemand Michael Schumacher. Donc les amis, ce Grand Prix, ce circuit, qu'est-ce qu'on en pense ? Julien, le roi des circuits, qu'est-ce qu'on en pense ?
Bon, personnellement, je ne suis pas un grand fan de Barcelone, mais parce que pour moi, c'est toujours une procession. Même si, il y a eu pas mal de dépassements l'année dernière. Mais du coup, forcément, ça change de Monaco. Ceci dit, ça reste intéressant aussi déjà parce qu'on ne fait plus les essais à Barcelone. Hein, ça, c'est important, mine de rien. Les essais hivernaux, parce qu'évidemment, il y aura les essais libres, mais je veux dire les essais de pré-saison. C'est une piste qui use beaucoup les pneus. Donc, les pneus sont mis à rude épreuve. On va avoir la gamme la plus dure. C1, C2, C3, si je ne me trompe pas. Voilà, évidemment, ce qu'il faudra regarder, c'est ce qui va se passer au premier virage après cette longue ligne droite. Et aussi, le virage qui part à droite, le 3, je crois, le 3, ou en tout cas, c'est là où on peut voir effectivement si jamais il y a un duel. Est-ce qu'on va retrouver une bataille à la Hamilton-Rosberg ? C'est toujours un peu ce truc depuis 2016. Donc, ça va être quand même intéressant, je pense, même si, voilà, moi, je ne suis pas un grand fan. Mais...
Ouais, mais comme tu dis, c'est vrai qu'on est quoi là ? On est en 2025, donc ça fait 9 ans, cette fameuse Rosberg-Hamilton. Si on en reparle autant, c'est bien qu'il ne se passe pas assez de choses sur ce circuit.
Ouais, c'est ça. Mais en plus, c'est le problème aussi, je pense, qui vient des pneus, parce que comme les Pirelli, c'est toujours un peu... C'est délicat et c'est une piste qui est censée beaucoup les user, puis en fait on se rend compte après que on met juste des hards et puis c'est réglé, quoi. Ou alors ça va être de la pure gestion Et donc, en fait, ça fait que tout le monde est un peu fait du lift and coast, attaque pas trop.
Ouais, et puis là, ouais, la gestion, ça, au niveau de la course, ça te donne jamais des courses folles puisque les mecs, ils sont larges en fait. Ouais, ça, ils ont 3 secondes d'étente. Tristan.
Ils ont eu deux grands prix, là, les équipes, ils ont eu deux grands prix avec les gommes les plus tendres. Donc, je pense que passer aux gommes les plus dures, ça va faire peut-être un peu bizarre pour tout le monde, même les pilotes au début. Parce qu'en plus, derrière, faut tenir avec les stratégies, etc. Donc, je pense que ça peut quand même être, même si c'est, on dit souvent que c'est le grand prix de la sieste, le grand prix d'Espagne, puisqu'il commence à faire beau, on sort le barbecue. Parce qu'il y a les copains qui viennent voir le grand prix à la maison, etc. Et qu'au final, ça se transforme en sieste. Mais ça peut peut-être faire un grand prix assez intéressant. Et puis, les petits changements qu'ils ont mis au tracé récemment, ça a aussi un peu dynamisé la course et la physionomie à chaque fois.
Oui, vu qu'il n'y a plus la chicane à la fin et que ça fait un petit moment, mais oui, c'est quand même souhaitable. Hein. Maintenant, c'est un grand virage à droite rapide où on peut tenter des choses.
En tout cas, on retiendra que Tristan, quand t'invites tes copains le week-end, ça se transforme en sieste à la fin. On veut pas savoir. Ouais, du coup, on va revenir un peu justement sur ces évolutions récentes, puisqu'on a vu quand même que on en a fait deux récemment sur le circuit. Donc la dernière chicane que vous venez d'évoquer, on a aussi un virage en amont qui, je crois, est le numéro 10. Qui a été ouvert dans mes souvenirs, qui était un peu plus épinglé. Oui. Et donc, du coup, il y a moins de freins. Donc, moins de freins, plus dur de dépasser, paradoxalement. Est-ce que pour vous, ça a été des bonnes modifs? Et si oui, est-ce qu'elles ont été suffisantes pour rendre la chose un peu plus sexy ou on est encore loin de ça, Julien?
Non, mais c'est toujours bon à prendre. Après, ça change pas fondamentalement le circuit. Quoique, oui, un peu le fait que la chicane n'existe plus, mais c'est pas ça qui change l'essence même du Grand Prix de Barcelone, le fait que voilà les pneus sont mis à rude épreuve, qu'il fasse très chaud aussi. Non, c'est bien, c'est un plus, mais bon, on va pas s'enflammer pour ça parce que bon bah voilà, finalement il y a deux virages de moins quoi.
Tristan.
Non mais en fait c'est pas comme à Abu Dhabi pour le coup. Là où ouais. À Abu Dhabi je trouve que ça a vraiment tout changé. Mais
oui c'est vrai. C'est vrai qu'en comparaison des deux, on voit qu'il y a des modifications chez l'un qui ont eu quand même plus d'effet que chez l'autre. Tristan, pour toi, c'était quand même des bonnes choses, non?
Bah, c'est des bonnes choses, mais ce que je trouve dommage, c'est d'avoir supprimé c'est un peu un virage à même plus que 90 degrés, là, celui qui est le virage 10 maintenant. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est supprimer la chicane, mais garder ce virage-là, parce qu'en fait, ça offrait vraiment une opportunité de dépassement. On avait la zone DRS, ça sortait d'un virage rapide, le long droit.
Le long droit, ouais.
Et c'est dommage parce que ça retire une opportunité de dépassement. Après, ça reste le Grand Prix d'Espagne en Catalogne, et si l'année prochaine, c'est sa dernière année, c'est parce qu'il y a une raison, je pense. C'est, que, ouais. C'est juste que le tracé, ça fait partie des tracés qui sont peut-être plus adaptés au F1 moderne.
Et donc, parce que celui-là n'est plus adapté au F1 moderne, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire en Espagne? Un magnifique circuit urbain à Madrid.
Ça manquait, hein, vraiment.
Je pense que, ouais, on était là, merde, il n'y en a quand même que 8 maintenant. Tristan, toi, ce Grand Prix de Madrid, il arrive quand déjà?
L'année prochaine, il y aura le Grand Prix d'Espagne à Barcelone et le Madring, comme ils l'ont appelé.
Ouais, même le nom est éclaté.
Ouais, les simulations, ouais. Même les simulations qu'ils ont fait, waouh.
Wow. La simulation 3D, catastrophique, on vous a montré ça.
La fameuse simulation qu'on a tous vue,
je pense. Où le mec a failli sortir 4 fois dans le tour.
Où il n'y a pas un pet de grippe
La publicité est incroyable.
C'est genre comment faire fuir tout le monde. Tiens, on va vous mettre cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, chers auditeurs. Vous la retrouvez facilement sur Internet, sur les réseaux, en tapant Madring, comme l'a très bien dit Tristan. Et c'est vrai que du coup, ça fait pas forcément rêver. On a presque peur que l'Espagne va devenir, au lieu de une purge, deux purges, quoi. Parce que ce circuit, moi, il m'a fait très peur personnellement. Toi, Tristan?
Je sais pas, enfin, de toute façon, faut attendre de voir une course pour vraiment se dire si c'est une purge. Il faut surtout attendre plusieurs éditions parce que parfois ça change, etc. Je pense que l'année prochaine, ça va être intéressant parce que déjà l'année prochaine, c'est une toute nouvelle réglementation. Donc, c'est probable qu'il y ait un peu plus de suspense, entre guillemets, sur l'issue. Après, ça reste un circuit urbain. À une époque que je n'ai pas connue parce que j'étais trop jeune, c'était quand même assez une grosse exception d'avoir des circuits urbains. Et aujourd'hui, quand on se retrouve avec presque la moitié de la saison des circuits urbains, quand on sait que les circuits historiques subissent l'alternance comme Spa, par exemple, c'est dommage et ça perd de l'essence et ça perd du côté, peut-être un peu plus de côté waouh au niveau des stars, mais ça perd du côté historique et même si c'est des grands prix un peu moins passionnants. Je trouve qu'on perd un petit peu ce côté F1 de l'époque.
Ah, c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'on est en train de regarder l'IndyCar, quoi. Mais bon, après, même si c'est intéressant l'IndyCar, mais et puis bon, après peut-être aussi, voilà, c'est le sens de l'histoire pour la Formule 1. Moi, mon seul reproche, c'est pas tant le fait qu'il y ait trop de circuits urbains, quoique mais c'est surtout, on aimerait bien avoir des circuits urbains intéressants.
Ouais.
Et
non, mais c'est ça.
Bon, finalement, par exemple, Las Vegas, j'ai des doutes et je me dis, ok, c'est pas trop mal. Singapour, j'aime bien, voilà. Mm. Mais alors, bon.
Jeddah, il y a rien de catastrophique.
Ouais, ouais. Ouais, Jeddah, au final, c'est, ouais, ça c'est quand même quelque chose.
Ça, voilà, c'est ça.
C'est juste que c'est un peu bizarre et voire presque dangereux, mais bon.
Ouais.
Bah alors, bah, voilà, mais par contre, c'est pour avoir du Miami.
Non, mais oui. Et puis, voilà. Ce qui est surtout, ce qui a changé, c'est qu'à une époque, on construisait le circuit dans la ville. Aujourd'hui, on a l'impression de construire le circuit. Enfin, on a l'impression de construire la ville autour du circuit, quoi. Quand
oui,
on voit Jeddah, c'est un circuit qui est construit de A à Z. Il n'y a rien qui est fait dans la ville, en fait, vraiment techniquement. Mm. C'est la corniche. Et
Bakou, c'est bien aussi. Hein, moi, j'aime bien, en tout cas.
Bakou, c'est bien. Hein.
Bakou, j'ai toujours bien
même s'il y a eu 2-3 purges. Mais,
bon, mais parce que Bakou, il est en ville, d'accord, mais il est vraiment hybride, en fait. Enfin, le secteur 3, t'as les gaz à fond tout le long ou presque, enfin après le 16.
En fait, il y a de bonnes idées.
Voilà, c'est ça. Après, il y a un moment, il y a des petites rues, il y a le fameux passage du château qui est presque pas réglementaire tellement c'est étroit.
C'est très technique, ouais.
Mais comme c'est un virage, c'est même pas un secteur, tu vois, c'est un mini secteur, bah ça passe, tu vois.
Bah ça donne finalement, c'est l'identité du circuit.
Ouais,
hein.
Voilà,
c'est-à-dire c'est les grandes lignes droites. Avec les virages à 90, mais ça encore, allez, il y a Singapour. Mais c'est ce truc où Leclerc a pris le mur, enfin ouais. La barrière.
Et c'est technique.
Ouais,
et
mais c'est ça.
Hyper technique. Alors ouais. Que quand on regarde un peu le tracé du Madring, voilà quoi.
Ouais.
Bon, ça, à voir.
C'est ça. Oh bah dis donc, on n'est pas du tout pressé d'être l'année prochaine. Bon, on va attaquer surtout, voilà, ce qui va faire la différence pour ce week-end avant d'aller à l'année prochaine. C'est donc l'arrivée de cette nouvelle règle pour les ailerons. On va, pour faire simple, grosso modo, on part du principe que McLaren abusait un peu et tire sûrement sa domination de ses ailerons. Et donc, on va les embêter un peu. C'est assez courant en F1 de voir pourquoi le premier marche mieux que les autres et de mettre une réglementation sur ce qu'il fait mieux marcher que les autres. Qu'est-ce qu'on en pense et surtout, qu'est-ce que c'est exactement cette nouvelle réglementation, mon cher Tristan ?
Eh ben, si vous voulez sortir les petits papiers au repas de famille, c'est la directive technique 18 déjà qui va sortir. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aileron avant, il va passer d'une réglementation à 15 mm de déflexion à 10 mm. Donc en fait, on réduit simplement la déflexion possible pour l'aileron avant. L'aileron arrière, ça va être pareil, même s'il y a déjà eu sur l'aileron arrière des certaines modifications depuis la Chine, notamment la FIA est beaucoup plus regardante sur ce point-là. Donc, des équipes comme McLaren, qui avaient instauré ce système, notamment en 2024, l'année dernière, l'ont déjà un peu moins. Mais là, le but, c'est, oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment d'essayer de pénaliser, entre guillemets, McLaren et de rapprocher le reste des équipes du peloton face au McLaren.
Si je veux bien préciser, parce que c'est tout à fait exact, hein, mais c'est vraiment pour bien se dire, c'est en fait à quel point, en fait, on ne veut pas que en fait, un aileron, ça se déforme, l'aileron avant, l'aileron arrière, et on veut être sûr que ça se déforme pas trop, parce que ça se déforme trop, il y a un avantage qui est énorme, démesuré, et du coup, voilà, on veut mesurer le fait que bon bah ça doit se déformer, mais jusqu'à une certaine limite.
Ouais, et puis surtout que la FIA ne pensait pas que la FIA ne vérifiait pas déjà ça, c'est parce que la FIA vérifie ça, mais ce genre d'appendice aérodynamique. La FIA, elle fait des tests à l'arrêt. Et une fois que les voitures prennent 300 km/h, ça modifie totalement la façon dont l'aileron réagit. Et donc, c'est pour ça que la FIA essaye de prendre une directive encore plus offensive, si on peut dire, pour éviter qu'à haute vitesse, ce que la FIA ne peut pas vérifier se produise. Et c'est pour ça qu'ils vont appliquer. Alors, la FIA va appliquer 100 newtons de chaque côté de l'aileron avant, si vous voulez tout savoir.
Ah ouais, bah là c'est bon, j'ai tout compris. Et alors, vous vous attendez à que ça soit une révolution ou un coup d'épée dans l'eau, c'est cette nouvelle réglementation ? Est-ce que finalement McLaren va en pâtir ? Est-ce que ça va modifier un peu la hiérarchie, l'hégémonie des papayas cette année ou...
Ah, c'est la grande question, hein.
Ouais.
En fait, le truc, c'est que pour l'instant, tout le monde était dans la légalité. C'est ce qu'il faut bien se dire aussi. Hein. C'est que,
oui, évidemment. Voilà. On rappelle, personne n'a triché. Il y en a qui sont allés à la limite, un peu plus aux confins des...
C'est ça. Il y a eu aussi la question de l'aileron arrière. On se rappelle que quand même, c'est grâce à... Moi, j'ai envie de croire que c'est grâce à un tweet sur les réseaux sociaux que tout le monde s'est rendu compte que l'aileron arrière de McLaren à Bakou, en fait, c'était un mini DRS. Parce que justement, ça se déformait trop. On peut dire qu'effectivement ils ont joué avec les limites, mais tant qu'ils n'ont pas été pris, on va dire qu'en fait techniquement ils n'ont pas triché. Bon, aujourd'hui le truc c'est que c'est pareil, personne n'a été sanctionné, Mais Red Bull n'arrête pas de dire le jour où ça rentre en vigueur, les nouveaux tests, etc., il y a moyen qu'on rattrape notre retard. Ou en tout cas que McLaren finalement revienne un peu vers les autres. Et d'ailleurs, Haas dit pareil pour finalement le milieu fin de peloton, quoi. Donc, à voir. C'est en fait, comme c'est difficile à mesurer, que du coup on ne peut juste voir que les vidéos, on ne sait pas trop. Mais bon, est-ce que moi j'ai du mal à y croire, mais bon, peut-être. Hein.
Et puis ce qui est marrant, c'est que forcément tous les teams principaux ont une réponse différente. Forcément, André Ashtella, qui est le team principal McLaren, il dit que pour McLaren, ça n'aura aucune incidence. En même temps, il ne va pas dire le contraire. Après, il y a par exemple Toto Wolff qui est un peu plus cru dans ses mots comme Horner et qui dit que ça va vraiment changer. Par contre, ils ne savent pas exactement qui va réellement en profiter, même si il semblerait que ce soit Ferrari et peut-être Mercedes dans une certaine limite qui gagnent le plus. Mais quand on voit par exemple le rythme des Ferrari, le rythme des Ferrari à Imola et le rythme des Ferrari à Monaco, même si c'est des circuits assez différents, parfois on comprend pas forcément ce qui se passe et il y a un rythme dans une monoplace qui sur un circuit va faire la différence. Donc on sait vraiment pas trop encore, même si normalement c'est McLaren qui devrait subir le plus de
Julien. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est c'est la dernière année d'une génération, d'une réglementation. Donc, il y a la fameuse convergence des performances et on peut voir qu'en qualif, ça se joue à des dixièmes, parfois à des centièmes. Donc, c'est, pour le coup, peut-être que le coup des ailerons, ça va genre très très légèrement changer, mais en fait suffisamment, juste quelques centièmes, ça peut suffire à bouleverser complètement la hiérarchie.
Ah oui, actuellement, quand tu vois qu'à Monaco, c'était combien que deux dixièmes pouvaient te faire passer de Q3 à Q1 presque. Enfin, donc aujourd'hui, c'est clair qu'un petit bout d'aileron, ça peut quand même faire la différence. C'est pour ça que moi, ça me donne un petit peu d'espoir. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que finalement, les écuries qui pourraient tirer profit de cette réglementation, est-ce que c'est pas du coup l'aveu qu'elles n'ont pas assez bien bossé avant? Parce que quand tu tires profit d'un correctif de FIA, peut-être qu'avant, t'es pas allé assez loin dans le truc, cette fameuse manie des ingénieurs à aller tirer profit au maximum jusqu'à la limite de la règle. Les écuries qui n'ont pas ces ailerons comme ça, c'est peut-être qu'il y a un moment, ils n'ont pas été assez malins, non, Julien?
Ah, il y a une part d'aveu de faiblesse et en même temps, c'est le jeu. C'est-à-dire que on savait depuis le début de la saison que ça allait arriver à Barcelone. Alors, il y a Red Bull qui poussait pour que ce soit même dès Imola, donc dès le triptyque européen. Mais en fait c'est un jeu, c'est-à-dire que chacun essaye de tenter le coup. Après, il y a aussi le fait de la comment dire, ça coûte quand même de l'argent et des ressources, des moyens humains de penser un aileron qui respecte telle réglementation, en sachant qu'il faut être prêt pour Barcelone pour être dans les clous de la FIA. Donc je crois que c'est Haas qui disait que en gros eux ils avaient joué un peu la carte de la prudence en pensant direct à Barcelone. Mais moi je comprends s'il y a des écuries qui effectivement attendaient ce moment-là pour finalement se dire ok, c'est à partir de là notre saison commence. Bon, elle a déjà commencé, mais c'est là où on fait tapis entre guillemets, quoi.
Ouais, parce que c'est ça Tristan, c'est que à l'inverse nous on est un peu dubitatif, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes à l'intérieur même des écuries qui se croient défavorisé par ça, sur le fait que ça peut vraiment avoir un impact clair et sur leur saison, voire les remettre à un endroit auquel on n'imagine même pas, c'est-à-dire pour prendre l'exemple de Ferrari par exemple, revenir dans la bataille alors que clairement ils sont un peu largués cette année.
C'est sûr qu'il faut surtout se rattacher à quelque chose quand on voit le début de saison de Ferrari et que effectivement, je pense que Fred Vasseur tous les soirs il pense à cette réglementation de Barcelone pour espérer que ça fasse quelque chose. Après, pour revenir sur le fait qu'une écurie est peut-être moins travaillée qu'une autre, moi je pense plus surtout que McLaren a très bien travaillé l'année dernière, qu'ils ont très bien exploité ces fameuses zones grises dont on parle souvent du règlement, où c'est pas écrit que c'est interdit mais c'est pas écrit que c'est autorisé. Donc en F1, ça veut dire qu'en gros il faut aller chercher justement ces petits points dans la réglementation. Après, ça me paraît normal que dans une équipe qui est un peu plus en difficulté ou en retrait, comme Mercedes ou Ferrari, qu'on attende cette directive technique. Oui, parce que le développement pour la saison 2025, là, il va se terminer bientôt, je pense, parce que les équipes vont vraiment se mettre à 100% sur 2026. Donc, c'est un peu la directive technique de la dernière chance pour ceux qui sont un peu derrière au classement et qui espèrent peut-être renverser la situation, même si ça me paraît franchement Peut-être sur le rythme en qualif, ça va changer quelque chose. Après, en course, la McLaren a l'air quand même vraiment de bien gérer les pneus et ils ont l'air quand même vachement à l'aise dans le duo de pilotes comme dans l'exécution cette année.
Puis bon, il y a un monde où en fait, on va voir week-end après week-end encore Red Bull ou je ne sais pas quelle écurie qui va dire « Eh, mais il faudrait peut-être vérifier les ailerons encore, on n'est pas sûr. »
Parce que oui, c'est le jeu, ils font ça tout le temps.
Parce que de toute façon, la FIA, comme ça vérifie à l'arrêt, bah, en course, on pourra encore dire « Mais en fait, en course, ça ne correspond pas trop. » Donc bon. Et moi, c'est potentiellement un débat sans fin.
Ça. Et puis de toute façon, ça fait toujours un peu ça là, pour dire ceux qui viennent un peu chouiner à la FIA. Il y a un petit côté, le petit frère qui n'arrive jamais à gagner et qui va demander à maman si une fois, elle ne peut pas, tu vois, mettre une règle pour gagner enfin une fois. Mais bon, après, c'est pas d'hier ce genre de
fin. C'est pas nouveau, ça c'est sûr.
Exactement. Donc on parlait un petit peu de Ferrari. On va enchaîner avec le prochain sujet qui est cette folle rumeur Christian Horner. Donc ce week-end, en principauté, le journal allemand Bild a lâché ce qu'on peut appeler une bombe. Il y a quelques semaines, Ferrari se serait renseigné, la quote exacte, se serait vaguement renseigné sur la possibilité de débaucher Christian Horner. Donc Christian Horner, ce ne serait pas pour être pilote, hein, ce serait pour remplacer Fred Vasseur.
Ah bon.
Donc Fred Vasseur a chaud aux fesses. Parce qu'apparemment, M. Elkann, il commence à en avoir un peu marre des performances en demi-teinte de Fred Vasseur et de sa Scuderia. Ça fait tôt et c'est violent, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Tristan ?
Bon, je pense que c'est surtout un bon jeu médiatique bien connu en Formule 1 aussi, histoire de mettre bien la pression sur tout le monde. Un petit journal allemand, je sais pas, même pour prendre une petite folie, allez, c'est peut-être Helmut Marko qui a voulu balancer un petit truc. Il a vu passer un papier où il y avait un petit logo Ferrari sur le bureau de Christian Horner. Il voulait l'embêter un peu, donc il a voulu lancer ça. Non, mais après, ça va un peu aussi dans la logique en soi. On a vu un Fred Vasseur quand même pas très à l'aise dans les interviews. On connaît Fred Vasseur, il est d'habitude assez rigolo, etc. Là, il est parfois un peu plus fermé. On sent que ça lui pèse quand même sur les épaules. Et c'est normal en même temps quand on voit les résultats de la Scuderia Ferrari. Donc moi, ça m'étonne pas. Après, pour avoir lu l'article, c'est vraiment juste, il s'est renseigné. On n'en apprend pas beaucoup plus. Ferrari s'est renseigné, pardon. On n'en apprend pas beaucoup plus. Donc, dans un monde comme la Formule 1, c'est normal que des équipes se renseignent sur des pilotes, sur des teams principaux, sur des ingénieurs. Il n'y a pas de folie. Après, oui, c'est sûr que Fred Vasseur, là, il faut que la directive technique elle marche. Hein.
Moi, j'y crois pas du tout. Bon, déjà, le fait que ce soit Bild qui sorte l'info, c'est suspect. Hein. Non pas que bon, Bild se soit ri, mais en fait, c'est que c'est un média allemand.
Et toi, tu me disais que t'aimais pas les Allemands.
Ça. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, s'il y a une info qui doit sortir pour Ferrari, a priori, c'est quand même la Gazzetta ou un autre journal italien.
El Corriere. Où,
et si ça doit venir aussi côté Red Bull, on sera plus sur tout ce qui est Télégraphe ou éventuellement un journal autrichien. Mais là, c'est bizarre. Ou éventuellement aussi d'ailleurs les Britanniques, en fait, aussi, parce qu'avec Horner, voilà, les sources bien placées. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Maintenant, bon, peut-être qu'ils se sont renseignés aussi, parce que, par exemple, pas forcément pour qu'il soit team principal, hein, ça, je sais pas, un rôle de conseiller, j'en sais rien, mais j'y crois pas. Par contre, après, le fait que cette rumeur existe, voilà, parce que, bon, peut-être que, voilà, après, Bild a ses sources, on connaît pas, etc., mais on connaît le jeu médiatique, comme tu as dit. Mais par contre, le fait qu'il y ait cette rumeur, ça rappelle, en fait, c'est que Ferrari, il faut des résultats, il y a toujours la pression, tout le temps. Même Vasseur, même si on l'apprécie tous, et que même finalement les tifosi l'aiment bien, et ben Vasseur n'est pas intouchable, parce qu'il n'a rien fait pour l'instant pour être intouchable. Enfin, l'écurie va mieux, globalement, à peu près à tous les niveaux, même si la voiture, c'est quand même difficile. Mais pour l'instant, il n'y a pas le résultat qui permette de dire bon, c'est sûr, Vasseur, il est là jusqu'en 2030. Quoi.
Mais c'est ça qui est fou. Et tu montres exactement, peut-être même, le cœur d'un des problèmes de la Scuderia, cette pression omniprésente, constante. Parce que l'année dernière, on était à deux doigts de le canoniser, Vasseur, en Italie. Quoi. C'est-à-dire qu'il était porté au nu. On arrivait d'une époque post-Mattia Binotto qui était quand même, on va dire, à minima compliqué, pour ne pas dire plus, avec des pit-stops catastrophiques. On ne parle même pas des stratégies. On ne parle même pas de tout ce qui n'allait pas, puisqu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Vasseur revient, on a l'impression qu'il remet un peu la maison à l'endroit.
Très bonne com aussi, il faut le dire, parce que ça, mine de rien, ça compte, mais dans l'idéal, ça n'aurait pas compté, mais ça compte aussi.
Bien évidemment que ça compte. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours de... c'est clair que là, il est très fort là-dedans. Et d'ailleurs, tu l'as remarqué, Tristan, il est beaucoup plus taciturne, beaucoup moins enjoué.
Lui... C'est pas le Fred Vasseur de l'année dernière avec les médias.
Moi, j'ai toujours eu l'impression que ce gars-là, qui a quand même une carrière mais monumentale, et je me disais, mais comment on peut être si haut, si puissant, et avoir là, ça lui coule, mais on a l'impression que il est hermétique à la pression. Et là, enfin, et c'est là ouais. que moi, je me dis que peut-être qu'il y a un peu plus que des rumeurs infondées, c'est qu'il a perdu justement son sourire. C'est voilà, là tu le vois pas aller mettre le micro dans le nez de Franck Montagny à la prochaine interview, quoi, tu vois. Et bah je me dis, est-ce que c'est pas une preuve déguisée de rumeurs, quoi, de choses, ou comme quoi ça, il est pas sur un siège éjectable, mais bon, il a enlevé le harnais de sécurité, quoi.
Bah après, ce qui est aussi étonnant, c'est que d'habitude la pression vient quand même des médias italiens. Là, la pression, elle vient d'un journal allemand, donc c'est là aussi où on peut se poser la question quand même. Mmh. D'habitude, les Italiens sont très forts pour mettre la pression.
Oui, c'est les
ne
premiers
vous inquiétez
à le faire.
Pas, ouais. Ils le feront quand ils pourront le faire. Mais après, il faut rendre, faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Fred Vasseur, il a recruté Lewis Hamilton. Fred Vasseur, si vous regardez cette année, Ferrari est en tête du championnat du monde des pit stops. Alors oui, il y a le championnat du monde des pit stops. Il y a eu un énorme travail là-dessus. Non, enfin, moi, j'ai un souvenir d'une époque Ferrari très lointaine, 2022-2023.
Mais oui.
Où c'était catastrophique. Là, on est sur des arrêts en moyenne. Le meilleur arrêt du week-end à Monaco, c'était 2 secondes, c'était Charles Leclerc. Enfin, en fait, Fred Vasseur, moi, je pense qu'il faut voir aussi son travail ici. Il ne faut pas le voir uniquement dans la performance. C'est Cardillet qui est parti. La performance, c'était lui aussi qui était en charge. Il est parti en pleine création de l'année 2025, de la voiture de l'année 2025. Donc, il ne faut pas mettre la pression que sur un team principal, parce que je pense que ce n'est pas Fred Vasseur qui dessine la voiture. Après, oui, il est sous pression, c'est clair. Il faut des résultats. On est à la maison Ferrari. C'est un peu le PSG en France, hein, Ferrari. Bah, c'est exactement ça.
Mais attention aussi, parce que bon, là, à chaque fois, on dit Ferrari, c'est dur, etc. Effectivement, en fait, s'ils sont pas premiers, c'est négatif, entre guillemets. Par contre, bon, quand même, quatrième au championnat constructeur, 142 points. Mercedes est deuxième avec 147.
Mais c'est ce que j'avais noté. Sans la disqualification en Chine, qui est une erreur professionnelle, on est d'accord. Hein. Mais sans la disqualification en Chine, Ferrari est deuxième au championnat constructeur. Ça se joue vraiment pas à grand chose en début de saison.
Les résultats sont décents. Le truc, c'est que bah, ça suffit pas quand on parle de Ferrari,
surtout
pas seulement en Italie, mais dans le monde entier.
Mais surtout quand on voit la fin de saison l'année dernière.
La fin de saison l'année dernière.
Il y a tellement d'espoir, en fait, ouais. Je pense que.
Et Julien parlait de l'importance de la communication il n'y a pas longtemps dans le côté positif qui peut permettre à Vasseur d'être aimé de tous ou ces choses-là. À l'inverse, cette communication depuis un an. Avec l'arrivée d'Hamilton, avec le comeback de Ferrari, on aura le Hamilton, on aura Leclerc, on a Vasseur, on fait des pit stops en 2 secondes, on va tout défoncer. Et puis en fait, ils sont à moitié largués. Je pense que ce décalage entre la com des 6 derniers mois et la réalité fait aussi que leur fait du mal. Parce que s'ils avaient dit, attendons, nous on vise 2026, Lewis il va avoir un an pour se mettre dans la voiture et tout. Ils auraient mis aussi leur fanbase peut-être un peu plus en attente. Quoi.
Ceci dit, Ferrari n'a rien promis. Hein.
Oui.
Ferrari n'a rien promis.
Oui, on l'a peut-être fait à leur place.
Voilà.
Pas notre genre.
Et les tifosi aussi. Non, mais il faut le dire aussi, les tifosi. Ils voient déjà, bon, ils sont de Leclerc de base. Ils voient en plus Hamilton arriver. Ils se disent, let's go, quoi.
Puis surtout, c'est dur quand t'es Ferrari, que tu finis deuxième au classement constructeur en 2024, de dire, non, mais 2025, on joue pas le titre. Ouais. T'as pas le droit de dire ça quand t'es Ferrari. Et peu importe où t'es, t'as pas le droit de dire non, on joue pas le titre. T'es obligé de dire oui, on va tout faire pour jouer le titre, jouer les victoires, etc. Donc forcément, bah oui, t'arrives en 2025, la voiture elle a pas le niveau par rapport à la McLaren.
C'est que ok. Et en plus, si tu retiens, tu dis attends, donc à part le sprint. En Chine, tu te dis, bon, bah, t'as les problèmes de radio Hamilton avec son ingénieur.
Ouais, ça, c'est un problème interne entre les deux.
T'as les histoires de disqualification. T'as Leclerc qui, à chaque fois, râle parce qu'il n'a pas la bonne voiture. Mais en fait, parce que c'est un compétiteur, mais du coup, il râle. Hamilton râle aussi. Bon, du coup, en fait, ça fait que, bon, bah, voilà. C'est peut-être aussi, je pense que Vasseur adopte juste un ton un peu plus raccord à ce qui se passe là maintenant. Parce qu'en fait, ça y est, ce n'est plus le début de saison. On est en plein milieu de la saison. Voilà, c'est là où on est dans le dur, quoi.
Et peut-être qu'on a juste demandé à Fred Vasseur sur sa communication d'arrêter de faire le clown aussi.
Ouais.
Pourquoi pas? Parce que l'arrivée de Lewis Hamilton, on a peut-être demandé, bah voilà, on a une image, etc. Bah, Fred, il s'agirait de se calmer un petit peu. Parce que c'est vrai qu'un team principal qui fait ce genre de blagues, c'est quand même assez exceptionnel. Surtout un team principal de Ferrari.
Bon, après, bon, je le vois un peu plus calme, mais ça reste Fred Vasseur. C'est pas non plus.
Parfois, sur certains résultats, il est.
Ah, c'est vrai, mais bon.
c'est pas le même.
Ouais, ouais, ouais. Et puis même dans ses réponses, il est plus dur, plus sec, ouais. Tu vois. Mais ça, comme tu le dis, c'est peut-être une image globale, c'est peut-être comme ça. Mais moi, je trouve ça dommage parce que voilà, si on perd les dernières personnes un peu spontanées dans ce sport, après, ça va être que des
heureusement
gens...
qu'Isaac Hadjar est là.
Mais voilà, c'est ça. Et comme quoi, sans les Français en F1, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, on va arrêter avec la séance de psy pour les tifosi parce que
je prends la carte vitale.
Ouais, voilà. Il y a d'autres choses à aborder aujourd'hui. Et puis bon, ils vont bien se refaire quand même les rouges. Mais moi, je voudrais vous parler, les amis, de Lando Norris. On n'en a pas parlé la semaine dernière vraiment, dans le dernier warm-up, et puis Vlatipa qui nous a fait un week-end incroyable. À Monaco, il nous fait le hat-trick. Et moi, la question qui me vient en tête tout de suite, c'est croyez-vous au comeback de Lando? Est-ce que ce week-end Monégas, c'est les prémices, c'est l'annonce du comeback de Lando Norris, Julien?
En tout cas, ça le remet dedans. C'est sûr, surtout à chaque fois, on n'arrêtait pas d'en parler, mais mentalement, c'est parfait pour lui. Parce que moi, j'ai toujours dit, travailler sur le mental, etc., c'est très bien. Mais il y a aussi, sans doute, en fait, il a besoin d'un résultat, d'une victoire, d'un grand accomplissement pour vraiment valider en fait son travail sur son mental, sur le fait de croire à la victoire finale ou pas, quoi. Donc, non, je pense que ça peut effectivement le remettre dedans. Ça demande confirmation, parce que Monaco, c'est quand même un circuit très spécial. Ouais. C'est-à-dire que, bon, à un moment donné, la performance sportive est absolument est majeure, parce que c'est Monaco. Donc, ça veut dire qu'en qualif, il faut avoir fait un tour de fou. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, record absolu de Monaco. Mais bon, après, en course, c'est pas qu'il faut juste défendre, mais voilà, quoi.
D'ailleurs,
on connaît tous Monaco.
Il l'avait même dit lui-même. Il dit, j'ai fait un super samedi, mais le dimanche, bon, je me suis embêté.
Voilà, c'est ça.
Quoi.
Donc, maintenant, on attend un peu de voir est-ce qu'il sera capable, si jamais... Par exemple, s'il se retrouve encore deuxième ou troisième en qualif, est-ce qu'il est capable, sur les premiers virages dimanche ou les premiers tours, les moments où il va y avoir la bataille pour passer Verstappen, par exemple, est-ce qu'il peut le faire rapidement, de façon clean, propre, sans qu'il y ait de drama, quoi.
Pour toi, t'émets un doute là-dessus, tu penses que...
C'est pas un doute, j'ai besoin de voir, quoi. Ouais. Je peux pas dire aujourd'hui, ouais, c'est sûr, il est de retour dans le truc. Ça oui, comptablement, ok, mais voilà.
Tristan, juste avant de te donner la parole sur le sujet, je vous propose tout simplement d'écouter Lando Norris sur ce thème-là.
You know, I also need consistency in order to back things up.
De régularité et de cohérence pour être au top niveau. La première chose, c'est de prendre week-end après week-end. Et je pense que ce week-end, je me suis prouvé que tout ce dont j'ai besoin, c'est juste répétition et cohérence. C'est ça la clé du succès. Et après ce week-end, je vois aucune raison pour laquelle je devrais déprimer. Tristan, on a l'impression, même dans son discours, du coup, qu'il a retrouvé un peu de grinta, là.
Alors, il a retrouvé de la grinta. Ça fait plaisir de le voir regagner, parce que ça va repimenter un petit peu ce haut de tableau, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'Oscar Piastri, pardon, avait pris une dimension supérieure face à lui, surtout mentalement, et même du coup dans le pilotage après ensuite. Mais au final, j'attends aussi de voir confirmation, parce que quand on voit son émotion, la façon dont il a réagi à Monaco, j'avais plus l'impression de voir un pilote un peu à bout qui relâche enfin un petit peu, parce qu'on n'a pas vu une célébration comme si, une célébration dominatrice. On n'a pas vu Lando Norris faire une danse comme Oscar Piastri nous a fait une danse à Miami. On a vu un pilote qui, sur le podium, était en pleurs. Alors, probablement parce que gagné à Monaco.
Soulagement plus que...
Moi, je pense que c'est plus un soulagement que vraiment de se dire « Allez, c'est bon, là, je recommence, j'en remets une. » Et Oscar, le prochain Grand Prix et la fin de la saison, il va prendre cher. Mais voilà, j'ai un mental pour aller le battre. Donc je pense qu'il lui faut encore un petit peu de confiance, tant en la voiture que dans les résultats, pour qu'il reprenne une dimension mentale. Après, j'ai jamais vraiment douté du pilotage de Lando Norris. Moi, sur le warm-up d'Imola, je l'avais prédit en vainqueur. Donc si je le prédis en vainqueur ce week-end, il gagnera pas en Espagne, mais le Grand Prix prochain. Ouais. Mais non, je pense pas qu'il a encore repris la dimension du Lando Norris de fin de saison 2024, mais plus un soulagement, la façon dont j'ai vu sa célébration, dont il est sorti de la voiture, même après dans les interviews, dans les médias, il n'était pas voilà, il a su qu'il avait fait un très bon samedi, qu'il avait été très fort sur un tour, mais qu'en course, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et souvent, en course, c'est aussi ce qui lui a manqué, cette...
L'an dernier, chaque fois, premier virage, hop, pole position, première place perdue.
Ouais, carrément.
On avait fait un gimmick, on se fichait de lui, clairement. Pour dire, il y a un moment, frérot, tu vas rester premier après le premier virage.
Ou même, par exemple, voilà, à Miami, Piastri passe sans trop de difficultés vers Verstappen. Enfin, c'était dur, mais voilà. Bon bah par contre Norris il a galéré, quoi.
Surtout au premier virage, il fait tout le temps la même erreur. Il essaye d'être dur avec Verstappen et pas de tenter quelque chose de différent. Il essaie juste d'être dur. Sauf que en étant dur avec Verstappen, il faut savoir que c'est toujours Verstappen qui gagne. Ça devrait être écrit, ça devrait être un dicton. Donc non, à voir franchement en Espagne. Mais par contre, moi je suis quand même confiant pour Lando. Je pense qu'il a repris un peu de plaisir surtout. Je pense en gagnant ce week-end, et c'est ce qui lui manquait peut-être aussi, du plaisir à conduire et du plaisir à être au volant de cette McLaren. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire ce week-end.
Et tu le vois faire un bon week-end bien enchaîné, ou tu penses que finalement ça a aucun rapport?
Je pense qu'on va attendre avec la directive technique du coup, parce que ça peut changer pas mal de choses. Mais en fait, je pense
que
sur un circuit,
pour lui, elle arrive pas au bon moment.
Je pense que sur un circuit classique, et si Oscar Piastri garde sa régularité, il va toujours quand même être un peu au-dessus mentalement. Il va falloir attendre un petit peu plus tard dans la saison pour, je pense, revoir le mental de Lando Norris vraiment comme on l'avait l'année dernière en 2024 à la fin de l'année.
Bon alors, tu as trouvé la transition parfaite, mon cher Tristan, puisque tu parlais de Max Verstappen. Max Verstappen, il a gagné les trois derniers Grands Prix. Donc, ma question est toute simple, Julien. Est-ce que tu le vois faire le 4 à la suite?
Non.
La réponse est facile, non?
Verstappen. Parce que en fait, juste la Red Bull est en dessous, même s'il est très fort. Non.
Non, voilà. Et toi, Tristan?
Non plus, hein, clairement. Ouais, je pense pas, parce que je pense que, mais je pense même qu'en fait, la
il est revenu un peu quand même. Et puis, s'il est avec cette réglementation, la Red Bull va mieux.
Il y a le point d'interrogation.
Ouais,
de l'aileron.
Je l'ai trouvé très loquace quand même sur la directive technique, mais au final, je sais pas si ça va tellement les avantager que ça, parce qu'ils avaient quand même pas mal bossé les ailerons flexibles aussi, Red Bull. Alors, ils les avaient peut-être pas bien mise en place sur la voiture pour que ça fonctionne bien, mais ils avaient quand même pas mal d'ailerons aussi flexibles, donc à voir. Mais après, oui, je pense quand même que Max, pour qu'il sorte un week-end exceptionnel, il faut qu'il y ait un côté un peu exceptionnel dans le tracé aussi. Le Japon, c'est du pur pilotage pur, et il nous l'a sorti, sa masterclass au Japon. C'est sur des choses comme ça où je pense qu'il peut faire des victoires. Après, il va peut-être grappiller des gros points, ça c'est sûr, ouais. Comme il le fait depuis le début de la saison.
Mais
il va maximiser.
Moi, il y a un truc qui m'intéresserait potentiellement s'il se qualifie bien, c'est-à-dire en gros entre 1 et 3, quoi, ça va être le premier virage. Parce qu'on sait que dans ce premier virage en bout de ligne droite, il a déjà fait des folies. D'aller tenter un truc à l'extérieur, à l'intérieur et tout. Et comme on connaît justement à côté Norris, qui n'est pas le roi du premier virage, moi je me dis que c'est, tu vois, ça ne m'étonnerait pas pour le coup que les McLaren soient devant, mais qu'il y ait un premier virage de folie. Le seul petit problème, c'est que moi j'ai peur qu'à partir du deuxième virage, le Grand Prix soit à peu près fini. Ça, c'est...
Non, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'après on a vu que le Red Bull... Enfin, en fait, il y a plein de choses qui demandent confirmation, mais il se peut que Red Bull ait une meilleure gestion des pneus au niveau de la dégradation, la température. Donc, si en fait ça se confirme, il est possible que Verstappen soit plus en mesure de résister sur plus de grands prix quand il faut attaquer ou résister aux assauts de McLaren. Mais bon, après, le gros souci de Verstappen, c'est que il est tout seul. Enfin. En fait, il se passe toujours un truc avec la deuxième voiture et là avec Tsunoda. Et donc, bon, deux contre un, sachant que derrière, il y a soit une Mercedes, soit une Ferrari qui pousse. C'est difficile, quoi.
Bah après, sinon, la Mercedes, tu la bloques, puis à un moment, elle va te doubler et puis elle va prendre un drive-through et puis c'est bon.
Bah, et puis, je pense que ça va beaucoup dépendre aussi du résultat des qualifications, parce qu'au final, quand on regarde, depuis l'arrivée du Grand Prix, il n'y a quand même que trois pilotes qui ont gagné, qui se sont élancés plus loin que la première ligne. Donc, en fait, il n'y a que trois pilotes qui sont partis au-delà de premier et deuxième qui ont gagné le Grand Prix. Donc en fait, ça va, désolé si vous n'avez pas aimé Monaco et la séance de qualification ultra importante le samedi, mais ça va être un petit peu pareil probablement ce week-end, donc à voir. Mais je pense que ça va être quand même intéressant.
Et d'ailleurs, il y a souvent, alors peut-être un peu moins depuis la disparition de la chicane, mais il y a souvent un peu les bouchons en fin de qualif dans les derniers virages de Barcelone. Ça, je crois que c'était Pierre qui avait dû rater un dernier tour à cause de ça. Il avait passé la ligne deux secondes après. quelque chose comme ça. Ouais, ça aussi, il faudra toujours faire attention.
Parce que il y a comme t'as envie d'avoir l'aspiration, etc.
Ah ouais, parce que exactement, comme la ligne droite est très longue.
Et t'as envie de l'avoir et t'as peut-être pas envie de la donner à l'autre.
Et voilà. Et souvent, ça fait des situations assez bizarres, les amis. On peut pas faire un warm-up sans notre petit point sur les Français. Et aujourd'hui, on va parler précisément de Pierre Gasly. Pourquoi ? Parce que dans un entretien accordé au Monde, Flavio Briatore, qui imite parfaitement Jean-Luc Roy, qu'on salue, a fait le point sur la situation donc de son écurie globale, mais particulièrement de notre ami Pierre. Et carrément, il l'a dit, il le voit devenir champion du monde un jour. Pourquoi ? Parce que selon lui, l'Alpine sera là pour se battre dès la nouvelle réglementation, dès 2026, et que Pierre fait partie, si vous voulez, pour reprendre, si vous êtes auditeur de l'After, les histoires des chapeaux. Il a mis dans chapeau 1, il a mis Verstappen, et puis après, juste en dessous, il a mis Charles Leclerc, Pierre Gasly et d'autres. Donc, il considère vraiment Pierre Gasly comme ce qui se fait de mieux en Formule 1, excepté Max Verstappen. Et avec ces arguments-là, il voit Pierre champion du monde. Moi, je vous avoue que j'ai lu ça avec la larme à l'œil, les copains. Comment vous voyez la chose ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Flavio, Tristan ?
La vitesse intrinsèque de Pierre, il n'y a aucun doute. Moi, ce qui me pose problème, c'est l'Alpine. Hein. C'est Pierre champion du monde, pas de souci, mais mettez-le dans une vraie voiture. Parce que voilà. Mais non, en fait, ce qui est triste avec cette interview, c'est que je me suis dit, avec Flavio, ça ne va pas être comme les années précédentes avec le retour de Renault, Laurent Rossi chez Alpine, l'histoire des 100 courses, on joue les wins
dans 2-3 ans, on est là.
Parce que là, le plus lunaire quand même qui dit dans ça, c'est, alors bon, c'est déjà on joue les victoires en 2026, mais c'est si vous lisez une ligne plus loin, 2027, on a des chances de se battre au championnat du monde. Enfin, ou en tout cas, on va être dans la course au championnat du monde. Désolé, mais vu la situation actuelle de l'équipe, il faut juste tout reconstruire. Alors après, si ça marche, exceptionnel. Mais on connaît Flavio, et il peut dire ça, dans trois courses, il peut dire que Pierre Gasly est le pire pilote qu'il ait eu sous son management aussi. Donc franchement, il fallait lancer une nouvelle voiture chez Alpine cette semaine, ils l'ont fait, il fallait faire un petit coup de com' dans le monde, ils l'ont fait, il y avait Zidane au Grand Prix précédent, ouais, voilà, en fait, c'est bon, on fait parler de nous, et c'est tout.
En fait, c'est des propos qui coûtent rien, je trouve, parce que au moins, ça te permet de flatter un peu ton pilote numéro 1, bon voilà, c'est... Après, il n'a pas forcément tort sur la qualité de pilotage de Gasly. Je pense effectivement que, franchement, oui, on peut faire la comparaison avec Leclerc. Hein, c'est parce que Leclerc est dans la Ferrari que voilà, c'est acté qu'il est forcément meilleur. Il est quand même un peu devant, parce que mine de rien, à un moment donné, Gasly s'est retrouvé dans la Red Bull et n'a pas réussi à performer. Ceci dit, on connaît la Red Bull et puis il était beaucoup plus jeune aussi.
Et puis voilà, ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même remettre dans son contexte. Je pense que de toute façon, le Pierre qui revient chez AlphaTauri et celui d'avant, c'est pas le même. C'est-à-dire, il revient chez Toro Rosso d'ailleurs, mais l'année d'après, ça passe en AlphaTauri. Depuis, il fait deux à Rio. Il va gagner ensuite Monza. Et pour moi, on peut plus comparer Pierre Gasly au Pierre Gasly de son baquet Red Bull. Bien que, on est d'accord, il n'est pas fait mieux que les autres dans ce baquet, mais c'est le baquet pourri. Juste pour en deux secondes un aparté, si j'entends qu'Adjar pourrait y aller dès cette saison, mais je prie pour qu'il n'y aille pas. Et voilà, on est tous unanimes pour qu'il reste tranquillement dans la V-Carb toute l'année et qu'il y aille, pourquoi pas, potentiellement tranquillement l'année prochaine. Donc c'est bien le souci, mais c'est vrai que je pense que Pierre, il s'est reconstruit une carrière. Et le problème, c'est que maintenant, c'est un peu bouché, non ? Enfin, où est-ce qu'il est le baquet qui pourrait lui tomber sur le coin du nez, là ? Moi, je ne le vois pas, Julien.
Non, mais le truc, c'est qu'en tout cas, au-delà des histoires de hiérarchie entre pilotes, en fait, c'est que, bon, il est suffisamment bon pour avoir des résultats s'il a la bonne voiture. Donc, en fait, ce que veut dire Briatore, c'est que lui, il est persuadé que l'année prochaine, mais le problème, c'est que c'est facile à dire, parce que c'est le gros point d'interrogation. Il est persuadé que l'année prochaine, il aura une bonne voiture. Et du coup, en 2027 aussi. Parce que c'est le gros Big Bang et parce que
il y a un moteur Mercedes,
il
pense que ça va tout faire.
Voilà, parce que c'est lui qui l'a choisi.
Voilà, exactement. Et ça permet de dire aussi voilà mon choix est très bon.
Exactement.
Mais potentiellement comme il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des écuries qui risquent de s'écrouler complètement parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la technologie du 50% électrique, que peut-être que des voitures sont incapables de finir les courses, et ben effectivement on peut se croire rêver que on aura Alpine et Haas genre 1 et 2 par exemple.
La bataille Ocon Gasly exceptionnelle, le retour en année karting.
Voilà. Hein. Ah ben là je suis prêt à payer cher pour voir ça.
J'exagère volontairement, mais par contre si par miracle Alpine se retrouve aux avant-postes, Et ben on peut se dire Gasly a la capacité, je pense, sans être au niveau de Verstappen, a la capacité de prendre les victoires, de prendre les points et de finir champion du monde. Finalement, un peu comme
beaucoup.
Mais comme Button avec Brown GP, quoi. Ouais. C'est-à-dire que bon, après la voiture était, voilà, c'était une fusée par rapport aux autres, mais bon, bah, au moins, on lui demande, t'as la meilleure voiture, il faut que tu gagnes, est-ce que t'es capable de le faire? Oui, bon, bah, voilà, et bah, je pense que Gasly peut le faire, voilà.
Ouais,
Le problème, c'est que, voilà, Briatore, là, c'est un coup de com', voilà, il y avait des produits à lancer, bon, bah.
Mais dans son éloge, justement, c'est un coup de com', mais il place quand même un petit bémol, il dit, avec une meilleure voiture. Donc là, bon, il est fair, il s'implique dans le fait qu'il n'a pas la bagnole. Et une concentration plus importante, il peut être un pilote de classe mondiale. Sous-entendu, il ne serait pas assez concentré. Je trouve ça presque...
La concentration, ça vient avec une bonne voiture
mais,
aussi.
Et je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'allais dire. Je trouve ça un peu culotté quand tu fournis un tracteur à un gars depuis 3 ans, de dire « Hey, t'as pas été concentré 24 heures sur 24 ». Et en plus, particulièrement, Gasly et Ocon aussi, je le mets dedans pour l'année dernière. Enfin, on le disait toute la saison, les gars, ils étaient 18-20, ils sortaient le meilleur de la voiture. Moi, je trouve ça un peu dur d'attaquer la concentration. Les mecs, si nos deux Français, ils n'ont pas montré preuve de professionnalisme l'année dernière et cette saison, là, je ne sais pas ce qu'il veut, Flavio.
Et au final, c'est sur ce genre de phrase qu'il faut porter le plus d'attention, parce qu'en fait, il lance un petit pic, il dit même, avec Pierre, tu perds des places au départ et tu ne les récupéreras pas.
Ouais.
Parce qu'il n'est pas concentré. C'est ce qu'il dit, c'est la petite phrase qu'il dit juste après. Et en fait, c'est sur ça qu'on a un peu l'impression qu'il met quand même une pression au final dans sa déclaration. Il dit oui, Pierre. En fait, Pierre serait très bon, mais là, il lui manque un truc. C'est presque ce qu'on comprend de Flavio, de sa déclaration. Donc, de toute façon, Pierre, sa déclaration, elle est aussi étonnante parce qu'il n'est pas du tout. Il est aussi pas en danger, mais il n'est pas du tout assuré non plus, Pierre, face à quand on a un directeur, même s'il n'est pas directeur comme Flavio Briatore, on n'est pas...
Voilà,
si Sergio Pérez ne trouve pas son baquet chez Cadillac, il peut très bien signer chez Alpine juste pour une histoire de sponsor. Hein. Ouais. Et parce que Sergio reste un pilote très correct, notamment. Donc, ce genre de déclaration, je pense qu'il faut faire quand même attention. Pierre est un pilote très talentueux, de la trempe des Leclerc et ce genre de pilote contre qui il s'est battu. Mais pareil, dire à un pilote « oui, il se battrait pour le championnat du monde » alors qu'en fait, il n'a jamais eu la voiture réellement pour le faire, faut faire attention. Il y a une période d'adaptation aussi à se battre pour un championnat du monde. C'est pas n'importe quoi. Il y a plusieurs pilotes.
Avec Lendo. Lendo qui a tous les qualités pour.
Même Oscar,
depuis qu'il commence à se rapprocher, je le trouve un petit peu moins...
Même pas forcément, mais Oscar l'année dernière, il avait une voiture très performante. Il a fait une saison... pas exceptionnel, il a fait une bonne saison, mais ça reste un pilote jeune et il n'a pas fait une saison exceptionnelle parce qu'il n'a pas encore l'habitude de se battre vraiment aux avant-postes avant chaque course. Donc attention avec ce genre de déclaration, mais oui, Pierre, il n'y a aucun doute que c'est un très bon pilote. Et cette année, il n'a pas eu beaucoup de chance sur les courses. Je pense qu'il aurait pu marquer un peu plus de points.
Moi, j'ai trouvé.
Là, il a que 7 points, si je ne dis pas de bêtises, mais il aurait pu en marquer un peu plus. Et d'ailleurs, il marque les 7 points d'Alpine, donc entre autres. Mais non, ça reste un très bon pilote. Mais attention à ce genre de déclat de
Flavio. En tout cas, tu viens de me débloquer un nouveau cauchemar. C'est celui dans lequel Sergio Pérez remplacerait Pierre Gasly chez Alpine. Là, moi, je te dis direct, je me mets à l'Indycar.
Tu rigoles, mais...
Ça arrive, je me mets à l'Indycar. J'arrête tout. Bon, les gars, on va finir ce podcast avec évidemment vos pronos pour ce week-end. Julien, qu'est-ce que tu vois? Je veux un vainqueur, une pole et à la rigueur la petite surprise.
Vainqueur Piastri, Paul Verstappen. Ah.
Pour moi, McLaren est encore devant, même si on a vu des signes chez Red Bull. Mais je me dis là, c'est une piste quand même difficile.
Ouais.
Difficile pour les pneus. Parce que sinon, non, c'est pas un circuit très difficile en vrai. Mais non, c'est éprouvant pour les pneus. Donc je me dis, McLaren a de l'avance sur ça. Et même si l'histoire d'aileron, je pense que on en fait un peu trop. Et que de toute façon, en fait, McLaren avec André Stella, ça bosse très bien depuis. C'est pas juste là, depuis le début de la saison. Ça fait 2 ans et demi en gros maintenant. Donc non, pour moi, c'est encore devant. Mais bon, voilà. Quand même obligé. Je me protège avec ce point d'interrogation sur les ailerons avant.
Et toi, Tristan, ton prono?
Dans son jardin, Lewis Hamilton prend la pole position grâce à cette nouvelle directive technique. Après la victoire, je pense que ça va être encore McLaren parce qu'ils sont vraiment, ils ont un step au-dessus au niveau de la gestion des pneus. Donc on va dire une petite victoire pour Oscar Piastri. Pardon. Et la surprise, Fernando Alonso,
dans
qui marque
points,
ses points pour la première fois de la saison et chez lui. Voilà, il va nous sortir une course masterclass, je le sens. Il y a Adrian Newey, on l'a vu dans le paddock la semaine dernière à Monaco. Il a étudié la McLaren pendant 20 minutes avec son petit carnet et tout. Là,
c'est une grosse surprise hein, quand même. c'est ce que tu as dit, mais juste un point.
L'Aston était un peu mieux quand même à Imola. Et bon, après à Monaco, c'est Monaco.
À Monaco, l'Aston a fait le plus beau déplacement du week-end avec Ken Stroll.
L'Aston est un peu mieux. Moi, je sais pas si Alonso, il.
Ah ouais, là, c'est l'autre question aussi. Ouais. Il cherche toujours sa 33e victoire.
Parce que, bon, respect Alonso, mais voilà.
Ouais. Finito Alonso ?
Non, mais à un moment donné,
Attention, hein, attention.
Sera le thème du prochain warm-up.
C'est-à-dire que là, il y a Stroll qui est en train de le battre. Enfin, ouais. Ça devient compliqué.
Ouais,
quand même,
c'est pas forcément évident. Bon, bah, les amis, merci beaucoup. Le drapeau à damier du warm-up est en train d'être agité. Merci à vous, Tristan. Tu pourras dire j'ai réussi ma deuxième fois. Chose pas donnée à tout le monde. J'espère que tu avais bien réussi la première également. Julien, à bientôt ou pas. Mais en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui avec nous parler de ce merveilleux Grand Prix. Je vous souhaite un excellent week-end de Formule 1, tout ça dans une belle ambiance espagnole. Profitez-en, à lundi, n'est pas Racing qui veut.
Salut,
buenos tardes.
Le paddock RMC.